Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. En 1946, traîner chantait la mer qu'on voit danser. En 2046, d'autres pourraient chanter la mer qu'on voit monter. Car la réalité est incontestable, centimètre par centimètre, ce qu'on appelle le trait de côte recule. Cette situation, les habitants du littoral héraultais y sont déjà confrontés et tentent de s'y préparer bon gré mal gré. Le démontage des paillotes du Grand Travers et de la Grande Motte ordonné l'an passé par le tribunal administratif suite à la plainte d'associations de défense de l'environnement et contre un édile peu enclin à mettre l'économie au diapason de l'écologie en était un bon exemple. Pour tenter de sauver son Atlantide, le maire de Palavas-les-Flots joue quant à lui sur d'autres tableaux. S'il affirmait dans la presse l'année dernière ne pas avoir le sentiment que la mer nous envahit et ne pas vouloir affoler les gens en évoquant la recomposition spatiale, il a parallèlement lancé le programme Palavas Horizon 2050 visant à préserver la plage et à restaurer le littoral en s'appuyant sur l'expertise des chercheurs, chercheuses et experts. Nos invités du jour font partie justement de ces chercheurs et chercheuses qui tentent de proposer des solutions aux collectivités territoriales notamment. Ils ont expérimenté une solution biomimétique visant à réduire l'impact des vagues sur le littoral. Leurs travaux ont fait l'objet d'une publication dans le Journal of Marine Science of Engineering. Avec nous en studio, Garance Marlier, bonjour.
Bonjour.
Donc vous venez de terminer votre thèse à l'Université de Montpellier au laboratoire Géosciences Montpellier.
C'est exact.
Frédéric Bouchette, alors vous êtes chercheur à Géosciences et vous avez hoché la tête, j'ai dit des bêtises.
Ouais, un peu.
Allez-y, c'est
non, fait c'est lié au fait que la solution qui est présentée aujourd'hui, là, à travers du papier de Garance, c'est une solution qui ne s'intéresse pas à la protection du littoral, mais à la gestion des flux sédimentaires à l'exutoire de l'Hérault. Du Lèze.
D'accord, ouais. C'est pas mal de le présenter, on pourrait le développer en plus dans la première réponse. Ouais. Avec moi sur les ondes de divergence pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous poursuivons notre cursus à la Fac des sciences en assistant cette fois à un TP d'optique, objectif créer un hologramme. En dernière partie d'émission, Anne Coudrin, vice-présidente de la Société des ingénieurs et scientifiques de France et directrice de recherche honoraire à l'INRD, viendra nous présenter une conférence organisée pour la Journée nationale de l'ingénieur qui aura lieu le 20 mars prochain au programme Jean-Baptiste Fressos, historien des sciences, des techniques et de l'environnement au CNRS sur le thème climat, énergie, une histoire sans transition. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors, pour commencer, donc, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Votre article parle de solutions de protection côtière, donc visiblement pas tout à fait. Alors, peut-être qu'on peut quand même préciser pourquoi il est important de protéger le littoral et de quoi est-ce qu'il faut le protéger, Garance Marlier.
Alors aujourd'hui, il faut voir qu'avec le changement global, de manière générale, nos côtes peuvent être sujettes à différents phénomènes, que ce soit la submersion, les tempêtes, etc. Et donc, nous, on va plutôt s'intéresser aux solutions de protection qui visent à minimiser l'énergie des vagues à l'arrivée des côtes, tout simplement, pour, par exemple, éviter la submersion ou d'autres phénomènes. Et on en reviendra un petit peu plus après, au cours de cette interview.
Frédéric Bouchette, est-ce que je peux vous donner la parole? On voulait vous demander ce que c'était qu'une vague en termes de mouvement, mais peut-être précision sur ce que vous venez de dire dans l'intro.
Ok. En fait, le moteur de l'essentiel de la dynamique littorale, ce sont les vagues. Elles représentent, on va dire, 90% de l'énergie qui est mise à disposition du système littoral pour évoluer. Donc le contrôle des vagues est extrêmement important pour être capable de rendre des services hydrosédimentaires. Et dans le cas présent, on a un sujet qui porte sur le contrôle des flux sédimentaires à l'exutoire du Lèze et en compétition avec les vagues qui arrivent du côté marais, ok, et pas directement un système de protection du littoral en termes de submersion ou des choses comme ça.
Par contre, ce qu'on va expliquer sur le fond, c'est ça.
C'est un problème de réduction de l'agitation des vagues pour favoriser le dépôt de sédiments à certains endroits et pas à d'autres, mais dans un contexte qui est l'exutoire du Lèze, ok. Mais par contre, ce qu'on va discuter société aujourd'hui, c'est un exemple, mais finalement c'est beaucoup plus large, c'est représentatif de ce qu'on essaye de faire sur le littoral pour la protection des côtes, pour en tout cas l'adaptation de nos littoraux aux changements globaux. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment concerne tous les sujets, que ce soit la submersion, l'érosion, même des effets de pollution, si vous voulez, y compris en incluant des considérations économiques ou sociétales. Quoi, okay, mais là, aujourd'hui, sur le papier que vous avez sollicité, celui de Garance, qui parlera, c'est essentiellement cette question du contrôle des flux sédimentaires à la sortie d'une rivière en compétition avec l'effet des vagues. Okay.
Alors avant de rentrer un peu plus en détail, Garance, dans ce papier, on parle quand même de solutions de protection côtière. Et justement, dans l'intro, vous en citez trois types, les solutions de protection côtière grises, naturelles et hybrides. Alors les solutions grises, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est et à quoi ça ressemble ?
De manière générale, on va qualifier les structures grises comme les digues, les ébilles, tout ce qui est enrochement, etc. C'est des structures qui sont lourdes, qui ne peuvent pas être déplacées, compliquées en tout cas de les déplacer. Et aujourd'hui, il faut voir que certes, c'était un avantage certain puisque ça permet de limiter l'agitation dans les ports, de les protéger lorsque vous mettez bateau dans le port, etc. Par contre, on voit qu'aujourd'hui, dans certains papiers, ce type de solution a un impact généralement, globalement négatif sur l'environnement, si c'est mal dimensionné, je précise, et peut avoir une faible longévité face au changement global, puisque lorsque vous designez ce type de solution, elles peuvent avec le temps ne plus être adaptées, et donc il faudra faire des maintenances lourdes pour l'adapter, par exemple.
Et les solutions naturelles, vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que c'est et de comment ça protège le littoral ?
On appelle solution naturelle toute solution issue du milieu naturel, donc ça peut être de la dune, la posidonie par exemple, tout ce qui est herbier, mangrove, corail, etc. C'est vraiment naturel.
Alors dans les années 90 se sont développées des solutions hybrides, donc en gros on copie la nature, c'est ça ?
Pas tout à fait. En fait ce qui se passe dans les années 90, c'est de nouveaux types de solutions de protection qui apparaissent, non pas hybrides mais qu'on appelle douces, qui en fait sont des solutions de protection qui, dès leur dimensionnement, intègrent l'aspect écologique qui était par ailleurs totalement absent avant. Donc hybride, c'est totalement autre chose, c'est des solutions qui allient à la fois des structures lourdes, donc digues et épis, et des structures complètement naturelles, comme la posidonie. Vous allez venir piquer de la posidonie en face d'une digue pour limiter par exemple l'énergie de la vague lorsqu'elle arrive sur la digue.
Et aujourd'hui, vous venez tous les deux nous parler de solutions biomimétiques. Alors de quoi on parle quand on utilise le terme biomimétique ?
La solution biomimétique est une solution qui s'inspire d'un processus naturel, comme par exemple le mouvement de la posidonie. Et donc on va vouloir mimer, technologiquement parlant, ce mouvement. Et donc on appelle solution biomimétique la structure qui permet justement d'aboutir à ce mouvement.
Et alors la mise en place de toutes ces solutions, justement, vous dites aussi dans l'article que ça nécessite une compréhension approfondie de certains processus. Vous parlez de processus éco-bio-hydro-morphodynamique. Est-ce que vous pouvez nous détailler de quoi il s'agit ? Frédéric ?
Garance, hein. Il n'y a pas de raison.
Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, quand on va déployer une solution de protection, il faut réfléchir à l'amont de pourquoi on pose cette solution de protection. Et donc, qu'elle soit hybride, lourde, naturelle ou autre, il faut bien comprendre les processus déjà en place sur le littoral. Par exemple, si on veut pas altérer, mais jouer sur le transit sédimentaire, il faut d'abord comprendre ce mécanisme dans l'environnement où la solution va être déployée, puis seulement la dimensionner et la positionner, puis la dimensionner de manière générale avant de la mettre en place, justement pour qu'elle réponde au problème qui est posé. Quoi.
Là, je peux mettre un complément.
Ouais, c'est bien sûr,
le fait qu'en fait, donc tu disais faire la liste des processus auxquels on peut s'intéresser. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les approches en solution douce, il y a aussi une démarche plus générale qui consiste à dire on ne va pas chercher à affronter ou gérer un mécanisme particulier frontalement. Par exemple, vous avez un problème de transit sédimentaire, vous n'allez pas bloquer le sable. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée derrière les approches en solution douce, c'est qu'il y a un peu plus disons, de nuances et de finesse dans la manière dont on va essayer d'apporter un contrôle ou favoriser une certaine adaptation. Par exemple, si vous avez un problème de transit sédimentaire, c'est le cas dans l'exemple de Garance, hein, vous allez non pas contrôler le transit sédimentaire en mettant des trucs qui bloquent le sable, mais plutôt contrôler l'hydraulique qui est à l'origine de ce transfert sédimentaire. Pourquoi on fait ça ? Déjà parce que c'est beaucoup plus facile de travailler sur l'hydraulique que la morphodynamique, qui est quelque chose d'extrêmement complexe d'un point de vue scientifique, et on ne peut trouver en aucun cas des solutions si on ne comprend pas les phénomènes. Donc il vaut mieux affronter ou en tout cas gérer les choses qu'on connaît bien et qui ont un impact indirect sur le problème qu'on a, plutôt qu'essayer de gérer directement le problème. Voilà. Donc avec les solutions douces, il y a aussi un peu de finesse dans la manière d'affronter le problème. Affronter est un grand mot, ok, voilà. D'où l'importance de la recherche académique dans ce contexte-là, parce que la connaissance fine de la physique de ces systèmes est nécessaire pour faire des choses pertinentes. Sinon on fait... caca en boîte ou quelque chose comme ça, quoi.
Alors, on va décrire un petit peu l'expérimentation que vous avez menée donc à Palavas-les-Flots. On l'a dit, vous dites dans votre publication que c'est un lieu stratégique pour la gestion du littoral. Pourquoi ? Quelle est la problématique là-bas exactement ?
Il faut voir que tous les ans, à la fin de la période hivernale, l'exutoire du Lez en fait, est ensablé dû aux tempêtes hivernales qui ramènent le sable justement à cet endroit. Et donc, l'idée de cette solution de protection est de venir... amener les vagues, pardon, lorsqu'elles amènent le sédiment, à venir le déposer au sein de la solution de protection afin d'éviter que ça aille justement dans l'exutoire qui ne permet plus, par exemple, aux bateaux, aux plaisanciers ou même aux pêcheurs de pouvoir pratiquer la passe toute l'année, quoi.
Alors l'étude, elle a été réalisée pendant 3 ans. Donc l'emplacement exact, c'est l'embouchure du Lez et de l'entrée du port de Palavas. Donc oui. On comprend avec ce que vous venez d'expliquer pourquoi c'est cet endroit en particulier, voilà, pourquoi c'était stratégique.
Alors justement, est-ce qu'on peut la décrire un petit peu plus, la solution, l'installation que vous avez mise là-bas, à quoi elle ressemble concrètement ?
Donc l'idée, c'est une solution biomimétique. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va s'intéresser à un processus et donc elle s'inspire du processus des kelps ou varecs, qui sont ces grandes algues que vous pouvez trouver par exemple, je ne sais plus exactement, mais je crois en Angleterre, vous pouvez en trouver, ces grandes algues qui prennent toute la colonne d'eau.
Quand on dit qu'elles prennent toute la colonne d'eau, c'est-à-dire qu'elles vont du fond jusqu'à la surface.
Exactement. Et l'idée, en fait, elles sont connues pour dissiper l'énergie de la houle. Et donc, l'idée, c'est de mimer le processus de dissipation d'énergie de la houle que fournit ces algues, en fait, tout simplement.
Et vous les avez installées, du coup, sur quelle surface
Un substrat sableux. Donc, en fait, la solution, elle est mise en jetting, pardon, dans le sédiment. Le jetting, en fait, c'est une technique qui permet de pulser de l'eau à très forte pression dans le sable afin de le liquéfier, ce qui permet de faciliter tout simplement l'ancrage dans le sable sans détruire le substrat qui est juste en dessous, quoi.
D'accord, vous les avez plantés dans le sable.
Exactement.
Okay.
Alors, cette installation, elle était équipée de 5 capteurs pour collecter les données. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de capteur pour quel type de données ?
Les capteurs, ce sont des capteurs de pression qui visent tout simplement à mesurer la pression à l'intérieur de l'eau. Et en fait, les variations de pression enregistrées par le capteur permettent de remonter au passage des vagues au-dessus et donc de remonter à la hauteur significative, leur période et plein d'autres paramètres qui sont liés aux vagues, quoi.
Et alors avec ces résultats, justement, vous avez montré dans votre publication que cette solution biomimétique, elle dissipe environ 10% de l'énergie totale des vagues en moyenne. Est-ce qu'on considère que c'est efficace, 10%?
Alors il faut surtout voir que cette solution dissipe 10% des vagues, oui, mais il faut voir que cette efficacité n'est pas l'efficacité de la solution n'est pas justement rythmée par ce chiffre. Il faut surtout voir si le service rendu, c'est-à-dire le dépôt sédimentaire, fonctionne. Et donc ça peut être fait de 1000 manières différentes, notamment des bathymétries, quoi.
Et en l'occurrence, vous avez trouvé que le service rendu, il était efficace ou pas ?
On aurait des résultats qui tendent à dire oui, mais on n'a pas suffisamment de recul sur la solution pour bien montrer que c'est vraiment le cas, quoi. Donc il faudra davantage de suivi, quoi.
Et justement, à Palavas, il y a aussi des structures grises, il y a un brise-lames. Est-ce que le fait d'avoir ces solutions qui cohabitent au même endroit, Frédéric Bouchette, c'est quelque chose qui ne pourrait pas fausser ou en tout cas interférer avec votre expérimentation ?
Alors, dans un cadre académique, ce site, il n'est pas idéal, puisqu'effectivement, il y a cette interaction possible. Hein. Pas mal de phénomènes de réflexion, réfraction, interaction complexe entre structure et champ de vague. Et le champ de vague, c'est ce qui nous intéressait, puisqu'on calculait la dissipation à partir de cette mesure-là, Garance vient de le dire. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que finalement, on a été placé dans une situation concrète. Hein. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce papier, et le travail de Garance de manière plus générale, s'inscrit dans une démarche plus large, qui est celle de la recherche de solutions dimensionnées par optimisation de forme. Et donc, vous placez dans un contexte réaliste où vous cherchez la meilleure forme d'une solution pour rendre un certain service, là en l'occurrence, contrôler la dissipation des vagues pour que ces matériels sédimentaires se déposent à un certain endroit et pas à un autre. Okay. Et ensuite, on a tout un tas d'outils qu'on développe à l'université depuis 20 ans, à cheval entre l'IMAG, Grothendieck et Géosciences, okay, qui font que finalement, on est capable de faire ce travail. de proposer la meilleure solution, y compris en tenant compte de la présence de solutions dures, grises et de leur interaction possible. La difficulté, c'est de bien formuler le service qu'on veut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut obtenir. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'a formulé Garance tout à l'heure. Okay. Donc, pour répondre strictement à la question, on a bien sûr des interactions avec ces structures, mais elles sont intéressantes parce qu'elles nous ont permis d'incarner et de trouver des exemples applicatifs concrets de ces approches par théorie de l'optimisation. Quoi.
Alors, vous avez également donc intégré dans vos calculs les conditions météo-marines pendant la durée de l'expérimentation. Est-ce qu'elles ont eu une incidence sur la dissipation des vagues ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'intérêt de cette expérience qui a été menée, c'est que j'ai pu enregistrer toutes les conditions connues de la zone, donc le mistral, la tramontagne, le marin, comme on appelle. Et j'ai pu, au travers des mesures réalisées, montrer qu'en conditions de tempête, la solution pouvait être plus efficace qu'en conditions, on va dire, pas neutres, mais de tramontagne ou de mistral, puisqu'il n'y a quasiment pas de vagues dans la zone, comme vous pouvez le voir quand vous allez à la plage. Donc oui, ça a une incidence, mais on montre quand même qu'en moyenne, on est à 10% d'énergie de dissipation, quels que soient les types de conditions. Quoi.
Alors, vous dites aussi dans le papier que vous n'avez pas de preuves directes pour savoir si la décroissance des vagues que vous avez constatées, elle est le résultat soit de la dissipation par frottement du fond, des vagues déferlantes, du transfert d'énergie au courant, donc plusieurs paramètres, ou de la solution biomimétique elle-même. Alors, comment est-ce que vous parvenez quand même à dire que cette solution elle est efficace ?
Il faut voir que quand la solution de protection elle est disposée dans un endroit, il y a plein de processus hydrodynamiques, sédimentaires et autres qui rentrent en considération. Et donc, mesurer toutes ces grandeurs en une expérience, c'est quand même compliqué. Et donc, il existe différents critères qu'on va venir évaluer pour voir justement si oui ou non on est dans tel ou tel contexte. Si je prends le déferlement, il y a un critère avec des ratios de processus hydrodynamiques qu'on fait et qui montre dans notre cas que quelles que soient les données enregistrées, on n'est jamais en condition de déferlement, donc déjà on peut enlever la dissipation par déferlement. Pour le courant, on a mis des capteurs de courant, il faut encore traiter la donnée, mais en regardant les données, on voit qu'il n'y a pas vraiment une différence affolante, ce qui amène à dire qu'il n'y a pas un impact incroyable. Et après, je ne sais plus quel autre intérêt.
C'est pareil pour tout, quoi.
Et voilà.
Elle a procédé en faisant des calculs ou des mesures complémentaires sur l'ensemble des processus qui sont censés absorber une partie de l'énergie. Et elle a constaté que ces contributions pouvaient être existantes, mais il n'empêche que la contribution de la dissipation, c'est-à-dire celle qui est objectivement mesurée par le capteur de pression, reste importante. Et donc, il faut qu'il y ait un effet par la structure, quoi, tout simplement, quoi.
Alors, vous parlez également d'un effet anti-dissipatif qui pourrait être lié à ce que vous appelez un phénomène de résonance. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, ce qu'on va appeler phénomène de résonance, je vais reprendre l'idée tout à l'heure du diapason. Lorsque vous utilisez un diapason, vous arrivez à une certaine fréquence qui est le « la » du diapason. Et c'est ce qu'on appelle le mode propre de cet instrument. Et donc, l'idée, ça va être la même chose dans un port. Si vous avez une vague qui entre à une certaine fréquence donnée, bah, elle peut rentrer en résonance avec ce port et justement générer des énormes dégâts puisque c'est la fréquence qui pourrait détruire toutes les structures à l'intérieur portuaire, quoi.
Et est-ce qu'on peut limiter cet effet ?
Oui, justement, les ports sont dimensionnés pour limiter ce type d'effet et justement ne pas entrer en résonance avec les vagues, le champ de vagues du milieu, quoi.
Là où c'est intéressant, c'est que l'expérimentation a permis de mettre en évidence la présence de ce type de mécanisme, ok ? Et que du coup, dans le travail d'optimisation au début, qui a consisté à déployer la solution dans la position optimale par rapport aux critères choisis, hein, ce dont on a parlé tout à l'heure, on n'avait pas tenu compte de ces aspects résonants. Donc là, on voit bien dans cet exemple-là qu'il y a un aller-retour nécessaire entre l'observation et la modélisation au sens de l'optimisation pour arriver à avoir la meilleure physique possible. Et ça, c'est des résultats qui sont plutôt subtils, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut voir au premier regard en mettant un appareil et faisant une mesure simple, quoi. Voilà.
Alors justement, dernière question rapidement. Au vu de ces résultats, est-ce que cette solution biomimétique que vous avez expérimentée, vous considérez qu'elle pourrait être une alternative aux digues et aux épis pour protéger les littoraux, ou est-ce que c'est simplement une solution complémentaire ? Frédéric ?
Alors, il n'y a pas de solution unique à tous les problèmes littoraux. L'idée sans nuance qui consisterait à dire qu'une stratégie ou une solution doit être appliquée partout sur le littoral pour résoudre tous les problèmes quand je le dis comme ça, c'est évident, est une absurdité. Donc en fait, actuellement, ce qu'on essaye de faire, c'est après une trentaine d'années d'exploration de différentes stratégies ou solutions, on essaie de trouver des méta-stratégies ou des sur-stratégies qui combinent les choses en fonction de leur pertinence selon les contextes. Donc pour répondre à la question, avec un contexte comme celui-là, aujourd'hui, une solution comme ça, elle doit rentrer dans un catalogue, elle doit être bien comprise, elle doit avoir été déployée et on doit avoir mesuré sa pertinence dans un certain nombre de contextes. On doit avoir mesuré aussi ses effets de bord, comme par exemple la résonance. Et ensuite, fort de ce catalogue, on est capable de déployer tout ça avec de la nuance dans un système naturel, comme par exemple le système de Palavas-les-Faux. C'est l'objet de l'initiative qu'on a là-bas, typiquement. C'est essayer de montrer qu'avec de la nuance et en combinant des solutions, on peut faire quelque chose de pas trop mal.
Garance Marly, Frédéric Bouchette, un grand merci à tous les deux pour la clarté de vos explications. C'était passionnant.
Merci à vous.
Merci, bye.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage direction Triolet pour assister à un TP d'optique avec Thierry Guillet et Steve Cronenberg. Ils sont enseignants-chercheurs à l'UM. Nous suivons pour l'occasion deux étudiants en troisième année de physique fondamentale. L'objectif du jour, imprimer un hologramme dans une plaque en verre.
Morgane Charrier, en troisième année de physique fondamentale.
Et je m'appelle Samuel Méali, pareil, en troisième année de physique fondamentale. Alors devant nous, on peut voir un laser, plusieurs miroirs et un objet qu'on va essayer du coup de photographier entre guillemets sur une plaque holographique.
Et l'objet en question, c'est un petit dragon.
Exactement.
Le laser, il se trouve où exactement? Il se trouve dans le...
Alors le laser, c'est cet objet-là. D'accord. Et il émet du coup un laser par ici, qui va être réfléchi par un miroir là, par un miroir ici, et qui va éclairer directement l'objet, on peut le voir là comme ça.
D'accord, donc là nous on voit un cylindre d'environ 40 ou 50 cm. Voilà, et en effet, trois miroirs sur le damier. Qu'est-ce qui fait que le laser permet de faire un hologramme?
Pourquoi un laser peut être une source de lumière peut-être? Ouais, je pense que ça doit être une question de longueur d'onde. On va regarder.
Thierry Guillet, donc, je suis enseignant de physique à la faculté des sciences, spécialement en optique. Il y a 4 heures d'expérience de suite pour d'abord faire les réglages qui vont amener ce faisceau laser dans la bonne forme à éclairer ce fameux dragon. Et ensuite, on va mettre en face les étudiants vont mettre en face une plaque photographique comme le film des diapos à l'ancienne. Ils vont révéler ce film photographique. Vous voyez ici les bacs avec les bains, blanchisseurs, révélateurs, rinçage. Et la dernière heure, ce sera de remettre sans l'objet, sans le dragon, de remettre la plaque holographique dans le faisceau laser et de voir en 3D que ce dragon, il est enregistré dans la plaque pour l'éternité sous forme d'hologramme.
Je leur ai posé une colle. Vous savez pourquoi est-ce que on fait un hologramme avec un laser et pas un autre type de lumière?
Pour réaliser les franges d'interférence et qu'elles soient enregistrées dans la plaque, il faut une source de lumière cohérente. Et la source de lumière cohérente la plus pratique aujourd'hui, c'est vraiment le laser.
C'est quoi qu'on appelle une source de lumière cohérente?
Sur l'eau, si on lance 50 graviers d'un coup, il y a plein de petites vaguelettes, mais elles sont incohérentes entre eux, ça fait des bosses, des creux dans tous les sens. Et par contre, si sur l'eau, on a une plaque qui descend et qui monte comme ceci, eh bien on a une belle série de vagues, une seule onde qui se propage, et c'est une onde qui a une bonne cohérence sur l'eau. Mais nous aussi, on fait ça avec la lumière. Et le laser, c'est la meilleure source d'onde cohérente.
Alors déjà, il faut commencer à bien diriger le laser, le faisceau, qui soit assez gros, qui soit assez, assez intense. Et ensuite, il faut qu'on place du coup un endroit assez stratégique, la plaque de verre.
Comment vous faites pour savoir, justement, en fonction des pièces qu'il y a sur les côtés, à quel endroit du damier vous mettez votre dragon?
Ça, on a plus testé, on ne s'est pas forcément repéré au quadrillage. Mais on a plus déplacé chaque objet, donc le miroir on peut le déplacer, le laser lui bouge pas. Et donc ensuite on joue sur la place du miroir et de l'objet pour qu'ils puissent tous être...
On s'est un peu réglé à la main.
C'est
en fait,
ça, c'est... oui.
Et puis ça se fait un peu sur le coup, on va dire.
Voilà, on teste.
Vous avez 3 minutes pour nous dire il en est où les petits dragons?
Alors du coup, ça a pas beaucoup avancé, là. Pour le moment on va placer la plaque...
C'est le même principe qu'une plaque photographique. Vous avez des grains d'halogénure d'argent qui sont distribués sur la plaque et sont posés là dans une gélatine. La différence avec une plaque photographique, c'est que là, comme on fait des interférences, l'information qu'on veut enregistrer, elle se fait sur des distances spatiales qui sont très petites, d'accord ? Qui sont plus petites que la longueur d'onde du laser. Ici, longueur d'onde du laser, c'est 630 nanomètres. Donc quand vous êtes prêt sur le positionnement de l'objet et de la plaque, préparez les produits et ensuite on regarde un peu comment enregistrer, développer, etc.
Ça marche.
Quand vous allez développer, en fait, vous allez sortir votre plaque du développeur et vous allez voir une plaque quasiment toute noire, toute sombre. D'accord ? La lumière a interagi avec les grains d'argent et en interagissant avec votre développeur, là, ils se sont noircis. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un autre bain qu'on appelle le blanchiment qui rend les grains d'argent transparents. D'accord ? On a supprimé les grains d'argent qui n'avaient pas interagi avec la lumière et les grains d'argent qui sont restés, on les rend transparents. Du coup, la plaque est totalement transparente. Et ce qu'on va avoir, c'est une modulation spatiale de l'épaisseur optique de la plaque. Et on va appeler, du coup, avoir ce qu'on appelle un hologramme de phase.
Qu'est-ce qu'il y a alors sur ce morceau de verre ?
On observe du coup notre objet en 3D.
En fait, tout à l'heure, j'ai parlé de franges d'interférence. En fait, ces franges, donc l'interférence entre la lumière de l'objet et du laser, elle est enregistrée entre guillemets sur la plaque. Et dès qu'on va éclairer cette plaque avec une lumière, eh ben, la frange d'interférence qui va être enregistrée va réémettre la lumière de l'objet, entre guillemets, et c'est comme ça qu'on va pouvoir revoir l'objet en 3D. C'est assez rigolo de pouvoir enregistrer une image, de la revoir. Puis l'hologramme, c'est quelque chose un peu de science-fiction, donc c'est vrai que d'approcher ça comme ça, c'est intéressant. Ouais.
Et j'accueille maintenant notre invitée de dernière minute, Anne Coudrin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science. Donc vous êtes vice-présidente de la délégation Occitanie de la Société des ingénieurs et scientifiques de France, directrice de recherche honoraire à l'IRD, et vous nous présentez une conférence organisée par l'IESF avec Polytech Montpellier à l'occasion de la Journée nationale de l'ingénieur qui aura lieu le 20 mars prochain sur le thème climat, énergie, une histoire sans transition. Et votre invité est assez connu du grand public, il s'appelle Jean-Baptiste Fressos. Il est historien des sciences et des techniques et de l'environnement au CNRS. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ce grand chercheur ?
Eh bien, ce chercheur est quelqu'un qui est maintenant bien connu parce qu'il a publié plusieurs livres, dont un avec M. Bonneuil sur l'Anthropocène. Et il est aussi d'ailleurs enseignant dans des écoles d'ingénieurs d'ailleurs. Et sinon, l'importance de ses travaux, pour moi, c'est que c'est un peu comme si on était dans une impasse aujourd'hui entre... On a besoin d'énergie, on continue à faire des émissions de gaz à effet de serre puisque cette énergie, on la prend en particulier à partir des fossiles, pétrole, charbon, gaz. Et pourtant, on sait qu'il faut diminuer et ça ne se fait pas. Donc, il y a toute une mouvance dans la recherche de pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Et là, l'intérêt d'un historien, c'est qu'il remonte à la source. Et on peut dire que c'est un travail même d'ingénieur. Il démontre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé, à quelle époque et pourquoi et comment on a fait tel et tel choix. Et donc ça, je crois que chaque citoyen a intérêt à vraiment capter un peu ce qu'il nous présente.
Alors, je l'ai dit, cette conférence, elle est donnée à l'occasion donc, de la journée de l'ingénieur. Pourquoi vous avez voulu aborder ce thème-là en particulier pour cette journée ?
Alors, parce que le thème de l'énergie est quand même quelque chose qui... Alors, pourquoi ? D'abord, parce que IESF, quand même, nous travaillons, nous sommes que des bénévoles, et nous travaillons dans un esprit, oui, et même c'est dans nos statuts, d'intérêt général. Hein. On intervient dans les collèges, dans les lycées, pour inciter les jeunes à faire de la science, et puis dans différentes actions, et aussi dans ces JNI. C'est tout public, c'est pour favoriser le lien de la démarche scientifique chez tout un chacun. Voilà, qu'on peut vraiment, on n'a pas besoin de faire des études de sciences pour avoir l'esprit de l'argumentation, de recherche, etc. Et d'entendre ceux qui savent. Voilà, donc c'est pour ça. Et puis cette énergie, on en a besoin, mais il faut qu'on arrive très rapidement et vraiment à diminuer jusqu'à presque zéro les gaz à effet de serre. Donc il faut changer la façon... d'aborder, d'être au monde et d'utiliser nos énergies. Il ne s'agit pas simplement d'une transition, d'en trouver encore une autre qui se rajoute à toutes les autres. C'est autre chose.
Vous l'avez un peu évoqué, mais justement, quel est l'intérêt de passer par le prisme de l'histoire pour évoquer ça ?
Eh bien, le prisme de l'histoire, c'est de retrouver les récits. À quel moment déjà, par exemple, le mot transition est apparu et dans quel contexte Et pourquoi les politiques ? Est-ce qu'ils n'avaient pas compris ? Ou bien, en fait, ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas les outils pour ? Voilà. Donc, ça permet, si vous voulez, comme toute démarche d'ailleurs d'histoire, quand elle est vraiment menée par des professionnels, etc., ça nous montre où ça coince à un moment donné, qu'est-ce qui est pareil ou différent d'il y a 20 ans, 50 ans, etc. Voilà.
Alors, vous l'avez dit, cette conférence, elle est gratuite, ouverte à tous. Donc, on le rappelle, c'est le 20 mars, à partir de 14h30, mais on essaye de venir avant, c'est ça ?
C'est mieux. Comme ça, on peut se mettre en place, on peut dire bonjour à son voisin. Et...
Alors, c'est à l'amphithéâtre Flao, à l'Institut de botanique. Donc, gratuit, ouvert à tous, mais par contre, sur inscription.
Voilà, oui.
Et dépêchez-vous, il y a encore des places, mais ça ne va pas durer. Alors, on mettra le lien donc, pour s'inscrire sur la page de l'émission, mais vous avez aussi un site.
Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que si on va sur Internet et qu'on tape le titre de la conférence, si on fait climat, slash énergie, une histoire sans transition, vous trouvez 5 sites, dont celui de l'université, dont celui de notre association IESF et Polytech et d'autres. Voilà, vous choisissez celui que vous voulez, c'est pareil.
Et est-ce qu'il y a un temps d'échange prévu entre le conférencier et le public ?
Bien évidemment, il va faire une conférence. Ensuite, il y aura un échange avec la salle et même à la fin, pour ceux qui veulent, il peut, en plus, petit comité, s'ils ont, par exemple, des livres ou des choses qu'ils ont envie de faire dédicacer par lui, il le fera avec plaisir.
Anne Coudrin, un grand merci d'être venue nous présenter cette conférence qui s'annonce passionnante. Allume la science, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.